À bout de souffle. Rencontre avec Nimrod. Nimrod, philosophe, poète, romancier, essayiste. Nimrod est né au Tchad en 1959. Études de philosophie en Côte d'Ivoire, puis en France, à Amiens. Quelques romans au hasard, d'une bibliographie conséquente. Le départ, Les Jambes d'Alice, et dernièrement, Le Bal des Princes. Des essais, citons-en deux qui viennent de paraître. La Nouvelle Chose Française et Rosa Parks, aux éditions Actes Sud. En hébreu, Nimrod peut se traduire par « se rebeller ». Sa littérature, ses essais, emporte la charge. Rencontre avec Nimrod, donc, proposée par Marc Blanchet et qui a eu lieu lors d'une veillée de 3 jours 3 nuits, organisée par le Centre chorégraphique national de Tours. Dans cette rencontre, vous pourrez entendre un extrait du Bal des Princes, lu par l'auteur.
Après la parution d'un premier volume qui sera repris quelques années plus tard, toujours aux éditions Obsidian, Pierre Poussière, et un second volume qui s'appelle Passage à l'infini, il y a eu un premier roman qui s'appelle Les Jambes d'Alice, puis suivi d'un récit autobiographique qui s'appelle Le Départ, qui est un autre moment de narration dans l'œuvre de Nimrod, suivi récemment par 3 ouvrages. Alors je précise également qu'il y a eu un tombeau de Léopold Sédar Senghor, Autant qu'il fait, et un volume écrit conjointement sur Léopold Sédar Senghor avec Armand Guiberge aux éditions Seguers, dans la collection Poète d'aujourd'hui, pour une œuvre dont on peut dire d'une certaine manière qu'elle s'achemine vers sa 20e année de publication. Nimrod, je suis désolé de vous vieillir un peu comme ça d'un coup. Et puis récemment, en fait, depuis 2 mois, il y a un mois même, il y a 3 livres qui sont parus ensemble et qui se complètent de manière assez remarquable. Il y a d'abord un roman, Le Bal des Princes, qui est la suite, et on s'aperçoit évidemment que cette suite peut se lire de manière séparée des Jambes d'Alice. Il y a une suite d'essais, enfin un essai qui s'appelle La Nouvelle Chose Française, et puis un ouvrage qui s'appelle Rosa Parks, Non à la discrimination raciale, et qui est un ouvrage de commande des éditions Actes Sud, mais qui n'est pas victime de cette idée de commande dans laquelle certains ouvrages d'écrivains émérites tombent parfois, c'est-à-dire que c'est un vrai ouvrage de réflexion avec, je dirais, une adresse peut-être plus large vers les adolescents, mais qui comblera, j'en suis sûr, par la qualité de son écriture et de sa réflexion, le lecteur adulte. Alors, pour vous présenter, je dirais que vous êtes tchadien ou d'origine tchadienne, je ne sais pas si vous avez la nationalité...
Non, je suis encore tchadien.
Voilà, on croise vos origines et votre histoire à travers vos romans, vos poèmes s'en font moins largement l'écho, et que en fait toute la délicatesse d'une animation comme la mienne est pour moi d'essayer de montrer à quel point, et c'est le sujet aussi de votre essai La Nouvelle Chose Française, il y a un problème aujourd'hui avec la perception de la littérature faite par des Africains, faite par des gens d'origine africaine, qui fait qu'on y cherche souvent quelques traces d'exotisme, une sorte d'originalité un peu lointaine, qui fait que c'est pas mal, ils écrivent aussi des romans, et que depuis le début, moi, le plaisir que j'ai à vous lire, c'est évidemment de discuter avec un auteur de langue française, et qui bâtit une œuvre qui me semble enracinée pour les romans dans une histoire, mais qui ne cherche pas à montrer cette histoire de manière démonstrative, comme si elle était une fin en soi. Et vous dites très justement, en effet, dans le Matricule des Anges, que les grands romanciers, Proust et autres, ne sont pas des raconteurs d'histoires, d'intrigues précises, dont on pourrait dire que c'est une sorte de préfiguration d'un scénario qu'on pourrait découper à l'intérieur d'un livre, mais ce sont surtout des narrateurs. Et j'ai l'impression que le Bal des Princes, ce second roman qui suit Les Jambes d'Alice, ce troisième roman, permet de poser encore plus ce travail magnifique sur la langue qui est le vôtre. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'il faut bien trouver une première articulation pour commencer à entrer dans cette œuvre vaste, en parlant de poésie, on pourrait dire que la poésie tombée dans la prose, l'expression de Nerval, pourrait être une manière peut-être de dire comment vous-même, dans votre parcours d'écrivain, vous avez commencé à ouvrir cette poésie, par exemple, au roman.
Poésie-prose. Disons que j'ai toujours voulu faire de la prose. J'ai toujours voulu faire de la prose, non pas parce que je voulais sortir de la poésie, mais simplement j'étais peut-être, vu surtout où je suis né, parce que pour peut-être vous aider, je suis arrivé en France à 32 ans et demi. Je ne suis pas arrivé comme les jeunes Africains arrivent souvent pour faire leur cagne, leur hippocagne, parfois l'université. Non, j'étais déjà un homme avec une famille, j'avais arrêté d'enseigner et parce que une occasion s'était trouvée et j'avais une bourse pour venir en France faire ma thèse de philosophie parce que je suis philosophe de formation. Et donc, surtout quand on est né au Tchad, et le Tchad, les Français en ont bien eu ces derniers temps, donc vous savez les relations difficiles qu'il y a entre les Tchadiens et les Français. Et vous avez vu qu'au Tchad, on ne connaît que les chefs guerriers, on ne connaît pas autre chose. Et au fait, voilà notre problème. Et un jeune homme qui cherche à écrire au Tchad, je crois qu'il ferait bien de se mettre une balle dans la tête. Parce qu'il n'y a strictement rien, il n'y a pas... Le premier écrivain que je vais rencontrer, c'est en Côte d'Ivoire, j'avais 24 ans. Et ce serait l'un de mes profs de philo. C'était pour la première fois que je rencontre un écrivain. Voilà, et comme il était mon professeur, je ne sentais pas trop ça. Et le premier écrivain français que je vais rencontrer, non, qui va m'écrire, c'est à l'âge de 30 ans, quand je commets mon premier livre. Et c'était Laurent Gaspard, il m'écrit, il me dit « Cher monsieur, je voudrais faire le désert de Tibesti avec vous ». Je dis « Mon pauvre, je ne suis pas du désert, on croit qu'au Tchad, on est tous du désert, non, je suis du sud ». Et donc, poésie, j'écrivais des choses, d'ailleurs je le rappelle dans l'entretien, dans le Matricule des Anges, j'envoie quelques textes à Pierre Segers, 87 environ, il trouve la bonne idée de mourir dans la semaine même où je l'écris. Et son secrétaire m'écrit, il me dit « Cher monsieur, consolez-vous, on est là pour continuer l'œuvre de Pierre ». Et il me donne ce conseil, il dit « Vos textes sont bons, mais cher monsieur, mais on n'écrit plus comme ça ». C'est pour vous dire que je ne suis pas dans les idées que les gens débrouillent autour de l'écriture, les esthétiques qui se rencontrent, qui sont à l'œuvre dans le champ français, arrivent vraiment avec recul. Et c'est en ce moment-là que je prends la décision de m'abonner au moins à trois grandes revues françaises, les petites maisons d'édition françaises, comme le Dé Bleu, par exemple, qui faisait des formules de vente par correspondance, mais très bien, vraiment, avec deux autres, avec le Tarabuste et je crois les éditions Le Norrois au Canada. Donc, on pouvait, avec un modeste abonnement, avoir des livres de ces trois fonds. Et c'est comme ça que je vais vraiment, parce que je voulais vraiment savoir ce qu'il en est vraiment de cette poésie. Je suis en coma depuis l'âge de 16 ans et demi et je voulais vraiment être au propre avec ça. Et donc, voilà à peu près. Et pour dire, et mon premier livre arrive à 30 ans, mais à 19 ans, j'écris déjà un roman qui était très très mauvais, évidemment. Et donc, voilà, j'ai toujours voulu faire les deux, pas les deux. Il y a la poésie, elle se décline ou bien en roman, ou bien en essai, ou bien en pièce de théâtre, c'est tout. Et pour moi, l'écrivain qui me touche et les écrivains qui peuplent ma bibliothèque, c'est d'abord parce qu'ils sont des poètes. Ce n'est pas seulement la marquise sortie à 5 heures, mais c'est peut-être quand il y a un petit mot qui vient donner la couleur de ce 5 heures, alors là, ça devient quelque chose.
Mais alors, dans cette découverte, qui va être une découverte un peu avide de la littérature française, il y a tout de même vos propres origines, qui sont celles aussi qu'on peut méconnaître de la part d'un Tchadien. Vous êtes un homme du Sud, un Quimois, mais famille protestante, dans une enclave catholique, avec les musulmans au nord. C'est ça un peu la configuration
du
Tchad.
Oui, et les animistes, il ne faut pas oublier.
Et les animistes, donc, il y a tout de même un livre, c'est la Bible.
Oui, c'est la Bible, mais ça... D'ailleurs, quand on parle avec les Français, leur connaissance biblique étant très très limitée, c'est frustrant. Ils se pardonnent très vite en disant mais on est laïcard. Je dis bon, d'accord, mais bon Dieu, qu'est-ce que vous ferez si vous êtes au Louvre, si vous ne connaissez pas la Bible? Qu'est-ce que vous ferez, bon Dieu? Alors, moi venant du Tchad pour dire ça, pour haranguer les Français. Je ne vous demande pas de croire, je vous demande de savoir ce qui s'est fait. En théologie, en philosophie, comment les bons pères ont volé la philosophie, croyant donner des lustres à la théologie. Et ils ne savaient pas que c'est comme les chevaux de Troie, ils amenaient l'athéisme même au cœur de ce qu'ils voulaient rendre rationnel. Et toute cette histoire compliquée et passionnante, hein, n'est-ce pas? Il faut le savoir, et c'est ce qui fait que prenez tous les auteurs du premier quart du XXe siècle, vous partez de Claudel à Jules Romain, je ne connaissais pas un peu la Bible, il y a beaucoup d'allusions que vous ratez complètement, et donc voilà, la Bible parce que c'était mon syllabaire, tout simplement, et d'ailleurs pour juste faire sourire les gens, entre 18 et 22 ans, un jeune protestant est tenu d'avoir lu la Bible entièrement au moins deux fois et d'avoir usé une Bible, vraiment deux Bibles complètement usées, annotées à trois crayons de couleur, le jaune pour le Saint-Esprit, le rouge pour Dieu. Vous comprenez, c'est cette sorte. Et je me souviens quand j'arrivais en France, je prenais ma Pléiade déjà notée. Alors, les Français effarés. Mais comment j'ai dit, vous savez, j'ai annoté l'original. Donc, je ne pourrais me laisser influencer par cela. Donc, il y a un respect, surtout en France, un respect qui me touche vraiment pour le livre comme tel, pour le fait de balancer de références. Mais pour se coltiner le texte, pas trop. On trouve quelques spécimens. C'est un pays littéraire par excellence, la France. Et ça, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de connaître la galère française. C'est pour la littérature, parce qu'il y a toujours, entre guillemets, il y a toujours un imbécile pour remarquer que vous avez écrit quelque chose de bien. C'est extraordinaire, un pays comme ça. Parce que, comme je vous dis, vous venez du Tchad, vous ne savez pas ce que c'est que les mécanismes éditoriaux, vous ne connaissez rien, vous n'avez pas d'entrée, vous n'êtes pas sorbonnard. J'ai fait ma thèse, mais à Amiens. Hein. Donc, comme j'ai le passeport tchadien, impossible de faire la grègue. Or, la grègue, voilà la chose roi. C'est comme ça que tu entres dans l'élite très fermée. Donc, un périphérique comme moi, il ne peut pas rêver un jour faire la une du matricule des anges. Mais il y a toujours quelques fous dans ce pays pour remarquer quelque chose. Et ça, c'est épatant.
Mais moi, ce que je trouve important, alors, c'est cette découverte de la littérature française. J'ai l'impression que elle se fait finalement avec une sorte de décalage de 10 ans par rapport aussi à certains Français qui pourraient se mettre à découvrir à l'adolescence la littérature. Elle se fait avec une énorme avidité. Donc quand vous êtes cette culture biblique, et j'ai l'impression presque uniquement biblique, c'est-à-dire que non seulement vous avez découvert la littérature française, mais peu avant vous avez découvert qu'il y a même des écrivains africains. C'est même une chose que vous sembliez ignorer.
Ah mais oui, mais jusqu'à une classe de quatrième, je ne sais pas, je n'ai pas souvenir de m'être posé la question. Et puis arrive, jusque-là j'avais eu des profs de français, c'était des Français. Et puis en quatrième, on nous donne un Tchadien comme prof de français. Il est mince, grand, taiseux, fume tout le temps. Et puis il dit, je vais vous parler de la littérature négro-africaine. Oh, c'est quoi ce machin? Et mais c'était épatant. Et comme il connaissait vraiment, il venait tout droit, il sortait de l'école normale supérieure de Brazzaville, il connaissait vraiment son métier. Il saisissait comme ça des textes qui répondaient à nos jeux dans les quartiers, dans la poussière, des choses comme ça. Mais c'était épatant. Et voilà. Donc, on se rend compte que des Africains écrivent aussi. Je savais qu'il y avait un conteur tchadien qui avait commis un livre en 61 qui s'appelle « Au Tchad sous les étoiles » d'ailleurs. Je fais remarquer toujours aux tchadiens que le désastre a été écrit. Parce que les étoiles, astres, désastres, on ne voit pas. Voilà, c'est là, ça passe sur l'écran. Là. Hein, et donc, mais lui aussi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, il est mort pendant la guerre, je crois. Oui, dans cette période de trouble. Donc, j'apprends comme ça, et avec ces fragments, parce que c'était des fragments essentiellement, et comme ça renvoyait toujours à des livres, j'allais en bibliothèque, et surtout la bibliothèque du Centre culturel français était à 500 mètres de notre maison, et je me souviens qu'on venait nous chercher dans les quartiers pour nous abonner. Alors, c'était vraiment marrant. Et donc, je pouvais comme ça faire ma culture. Donc, quand tu dis que c'est une culture biblique, mais essentiellement biblique, si je veux rester dans ton approche, ça veut dire biblique, ce n'était pas seulement le fait, pour employer de grands mots, ce qu'on appelle l'exégèse, c'est-à-dire l'analyse savante des textes. C'était aussi la théologie. En France, vous savez bien, autour de la table, on parle toujours politique. Mais chez nous, on parle théologie. C'est autour de la table, c'est Dieu, c'est serions-nous sauvés? Qu'est-ce que c'est que la prédestination? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui dit et la chose est? Ce sont ce genre de questions. Donc, d'où ce penchant naturel et ce qui va me pousser plus tard à faire la philosophie. C'était très simple. C'était pour ne pas devenir un second pasteur encore à la maison.
Oui, parce le père de Nimrod était pasteur.
Et donc, pour fuir, il était plus simple de faire la philosophie. Donc, les frontières ne sont vraiment pas étanches. Pour qui a de la sensibilité, et d'ailleurs, encore pour contextualiser ça, parce que le public étant très très jeune, prenez simplement la formation d'un clerc en France au XIXe siècle. Ça se faisait toujours presque dans un presbytère. C'était tout bête. C'était le curé du coin qui donnait l'érudiment des latins et des grecs à un jeune qui avait comme ça quelques curiosités pour les livres, et un jour il devenait quelque chose. Et donc ce genre de schéma fonctionne encore. En dehors de la France et dans les pauvres pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne dans d'autres religions comme l'islam. Vous voyez bien le fanatisme des jeunes gens. C'est-à-dire que si ces gens qui forment les jeunes tombent dans un excès ou un autre, ça, on peut basculer dans le pire. Donc, je dois toute ma formation à l'Église parce que... Mais c'était le seul îlot où il y avait vraiment des lettrés où on pouvait poser et aborder les questions.
Alors vous avez commencé à nouer des liens avec, avec la France jusqu'au moment où vous décrochez le prix de la vocation de la Fondation Bleustein-Blanchet ici en France. Et en fait, il y a l'opportunité via Saint-Gor qui s'adresse à Alain Decaux, donc d'avoir une bourse. Mais vous parliez de théologie, donc c'est le choix de la philosophie plus que celui de la littérature au niveau de vos études.
Oui, d'abord, comme je viens de te le dire, c'est pour fuir vraiment ce poids familial des théologiens. Et donc, pour ne pas trop décevoir la famille, je dis, je vais faire la philo. Alors, eux disent, il n'est pas allé bien loin et le Seigneur le ramènera. Hein, n'est-ce pas? Mais ils savaient pas que je m'en allais vraiment. Donc, voilà, c'était vraiment par respect pour mes parents que je faisais ça, parce que j'avais voulu faire... comment ça s'appelait, la psycho. Alors, mes parents disaient non, je voulais faire le droit. Il n'était pas très chaud. Et j'ai vu que quand j'ai dit la philo, il y avait un air entendu entre eux. Donc, j'ai pris ça et j'ai dit que je veux faire la philo à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je ne savais même pas s'il existait une faculté de philo. Je ne savais pas. Simplement que l'un de mes deux meilleurs amis pour fuir la guerre était allé à Abidjan. Pour moi, c'était les retrouver, surtout. Et je vois, il y avait une splendide faculté de philosophie. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi parce que c'est une formation de tchadien, donc j'avais quelques rudiments plutôt de grec, c'est ça les protestants, ils restent souvent au grec, ils passent à l'hébreu et ils vous laissent le latin. Hein, le latin, on le laisse aux catholiques. Hein. Donc ça se passe comme ça souvent chez les protestants. Donc j'avais quelques rudiments de grec, quelques rudiments d'hébreu, mais le latin, je ne l'avais pas. Hein? Et donc, c'est ce que je vais essayer comme ça de faire très très mal en première année de philosophie. Mais parce que je m'étais rendu compte que ces matières-là, il me fallait une formation vraiment régulière si je pouvais. Par contre, alors que c'était évident pour moi et encore beaucoup plus facile de faire des études de lettres, hein, de lettres tout simplement, mais je m'en jugeais capable. Je savais que je pouvais me débrouiller tout seul en lisant. Donc c'est comme ça que je n'ai pas fait les belles lettres comme telles. J'ai fait la philo.
Alors dans ce parcours, il y a aussi un départ du Tchad qui au moment de la guerre. Et c'est-à-dire que vous parlez de toute cette culture, de toute cette recherche personnelle, mais ça se fait en tension avec une situation dans le pays qui est extrêmement violente et qui est celle-là même que vous allez revisiter à travers vos romans. Donc ça veut dire que les romans, c'est une manière de revenir pour vous au pays et d'avoir une sorte de compréhension de l'instant, mais nourrie de votre expérience littéraire.
Oui, d'abord, comme toute expérience, l'expérience littéraire, ce que tu appelles l'expérience littéraire, je ne l'ai pas vraiment devant moi, donc c'est en se faisant que ça se redéploie là-dedans. Et donc, quand je veux faire, surtout pour la prose, c'était une sorte de dette. Cette guerre m'avait tellement marqué, alors que je n'étais pas engagé. Je suis même l'un des rares à avoir vécu la guerre sans voir un seul mort. Hein? Quand j'arrivais, on me disait, on vient de ramasser des cadavres. Je voyais les traces. Je voyais le sang. Je voyais des gens qui en étaient victimes. Mais la confrontation comme ça directe, je ne l'ai pas eue. Il n'empêche, ça m'a meurtri pendant 15 ans. 15 ans, vraiment d'une vie bousillée. Pendant 15 ans, j'ai remonté la pente très, très douloureusement. Et donc, ce que je pouvais faire, et c'est pourquoi la thèse de philosophie était bienvenue, ça me permettait de faire des choses académiques qui ont leur démarche presque balisée, alors que les activités artistiques, c'était très très difficile parce que j'étais dans un trouble identitaire. Il y avait l'exil, il y avait le fait tout simplement que être tchadien et en exil, ce que vous ne savez pas peut-être, un tchadien, quel que soit le lieu où il vive à l'étranger, il n'y a aucune ambassade tchadienne capable de lui délivrer des papiers. C'est-à-dire que quand nos papiers arrivent à expiration, comme le passeport, il faut s'arranger ou à repartir au Tchad ou à trouver quelqu'un, lui donner les papiers, l'argent. Ce qui fait que pendant les moments de guerre, quand je vivais en Côte d'Ivoire, il arrivait que je me retrouve, mon passeport a expiré tout simplement et que je ne peux même pas renouveler ma carte de séjour en Côte d'Ivoire. Et même en France, cela m'est arrivé tout le temps. Donc c'est une difficulté vraiment monstre et ne serait-ce que ça, cette fragilité-là pour quelqu'un qui a vécu dans le cocon familial jusqu'à l'âge de 19 ans, qui n'a pas connu vraiment des coups, ça a été terrible. Et c'est pourquoi... La guerre, ce n'est pas seulement les morts. Hein. La guerre crée un désordre que jusqu'aujourd'hui, avec les moyens intellectuels que j'ai aujourd'hui, que je n'arrive pas vraiment à cerner. Il y a une violence que vous fait la guerre, qui est faite à des gens qui sont dans un pays en guerre, qui est tout simplement inouïe. Donc, non, je me suis cherché, et c'est pour ça que ces œuvres arrivent très tardivement, parce qu'il fallait d'abord consolider la personne, après pour chercher une esthétique, tu sais quelle galère c'est, et puis essayer de bâtir. Quoi. Je fais toujours sourire les gens. Les jeunes gens nés dans d'autres pays africains qui ont 10 ans de moins que moi, ils ont une bibliographie qui fait le double de la mienne, c'est aussi simple que ça, mais parce qu'ils ont eu une vie qui n'a pas reçu des coups et qui est allé son bonhomme de chemin.
Alors moi, quand j'ai découvert votre poésie, j'étais, je pourrais dire d'une certaine manière, charmé, parce que je voyais un héritage qui était aussi évidemment un héritage français, mais je ne le voyais pas dans la génération des années 50-60, mais je le voyais aujourd'hui. C'est-à-dire que je me disais, et peut-être que ça, je ne sais pas si ça va vous gêner ou pas que je dis ça, mais je dis, ben, voilà bien quelqu'un qui vient après Claudel et Saint-Jean de Perse et d'autres auteurs. Donc ça veut dire aussi que Claudel, Saint-Jean de Perse, aujourd'hui dans la poésie française contemporaine, j'entends aussi chez les poètes français contemporains, oui, vivants, pour les appeler en entier, c'est une langue et c'est une pensée qui les effraie un peu, qu'ils veulent dater, alors qu'il me semble que par le théâtre, on a évidemment un Claudel toujours vivant, mais il y a une poésie, et Dieu sait si les cinq grandes odes ou Connaissance de l'Est, ce n'est pas rien. Et la poésie de Saint-Jean de Perse, elle, est encore plus, un peu, je dirais, décriée. Mmh. Et pourtant, à travers ces livres, vous avez vraiment pu imposer une voix poétique. J'aimerais qu'on puisse en parler un peu, c'est-à-dire comment ce souffle lyrique a pu, d'une certaine manière, rencontrer ses propres lecteurs en France, et si pour vous, il y a vraiment eu une confrontation, alors justement, à des esthétiques françaises très critiques à votre égard.
Oui, mais quand on vient de périphérie, on vous pardonne. Après tout, ce petit exotique vieux, on a un ami commun, Jean-Yves Masson. Il dit, Nimrod, nous, on ne peut vivre que dans le lyrique. Toi, on te pardonne parce que tu viens d'ailleurs, mais moi, on ne me pardonne pas du tout de m'essayer dans la veine lyrique. Après tout, il n'y a qu'une seule veine de par le monde. Depuis Homère jusqu'à ce foutu XXe siècle qui a cru tout innover, hein? Donc, ça fait 3000 ans d'histoire, c'est le lyrisme. Hein? Je rencontrais un jour un poète d'une chapelle, d'une coterie parisienne. Il me dit, mais Nimrod, vous faites de la poésie, poésie. Je dis, et alors? Il dit, mais il y a d'autres. Je dis, pourquoi vous voulez nous casser une tradition qui date depuis 3000 ans? Et je crois que cet avant-gardiste que j'avais en face n'avait pas pris le temps de réfléchir à ce phénomène. Il était désemparé. Et j'ai compris. J'étais dans la dèche. Je venais lui demander une subvention. Évidemment, il me l'a refusé. C'est c'était pas mal. Mais j'étais fier, après tout. Je dis, je creverais la dalle, mais je ne me plierais pas devant, et machin, pareil. Quoi. Donc, c'est... Ce lyrisme en Afrique, ça va de soi. Non pas parce que le lyrisme en soi soit quelque chose de bon, non. C'est l'écriture seule qui peut dire si c'est bon ou pas. Mais prenez un arabe, prenez un asiatique, prenez un africain, mais le lyrisme, ça va de soi. Donc cette honte, ce diktat qui est venu à un moment du XXe siècle, on ne sera plus lyrique. Le lyrique ou d'autres, pour s'excuser d'être encore lyrique, disent le lyrique critique. Ça n'a aucun sens, c'est lyrique ou c'est pas lyrique. Qu'est-ce que c'est que lyrique critique? C'est à croire que ce qui était lyrique avant nous n'était pas critique. Ce qui est complètement... Ce qui est prétentieux et qui n'a aucun sens. Hein. Je voudrais bien qu'on aligne un poète comme Homère laissant tomber, mais comme Claudel, tout simplement. Donc il y a eu un moment dans la poésie française, où cette chose-là, qui est toujours et qui est l'un des fondamentaux quand on écrit, quand on commence à connaître ces gammes, on rencontre une autre difficulté, et cette difficulté, ça s'appelle la terreur. Ce n'est pas la terreur de 1789, mais c'est la terreur simplement de dire « cela, je me l'autorise », tout simplement. Hein? Et ce qui fait que tous ces écrivains qui vous disent « nous sommes des êtres libres », non, c'est en regardant « est-ce que je peux dire ça ? Est-ce que tel journal, est-ce que... » C'est ça. Il faut que tu puisses te dire « cette erreur-là, non, elle ne prend pas sur moi ». Donc, venant d'ailleurs, et c'est ce qui fait ce côté décomplexé des Africains devant, mais c'est simplement parce qu'ils n'en ont pas l'héritage ou ils n'ont d'héritage que le lyrique. Hein. Donc, je n'ai pas vraiment cherché ma voix. C'est dans cette voie-là que je pouvais m'inscrire. Il suffisait pour moi, la seule question, c'était trouver les moyens pour m'inscrire dans cette voie-là. Mais les autres diktats, bon, il faut dire aussi que j'avais fait la philo et que je suis protestant, je sais protester. Quoi. Donc, voilà.
Alors, cette poésie dont je parlais, qu'à un moment donné, dans son développement, elle va aller vers le roman, ce roman qui va puiser pour les histoires, je dirais, pour les personnages, les situations dans la guerre du Tchad, avec un narrateur qu'on retrouve dans Les Jambes d'Alice, et un narrateur qu'on trouve dans Les Jambes d'Alice et qu'on retrouve dans le Bal des Princes. Il me semble que de ce premier roman, Les Jambes d'Alice au Bal des Princes, il y a quelque chose qui s'est encore plus déployé et qui fait que d'une certaine manière, ce que l'on entendait d'une voix et d'une musicalité dans le premier offre quelque chose d'un flux continu, mais je dirais presque polyphonique, même si c'est la même voix qui parle, avec une méditation sur le langage qui épouse naturellement le flot de la narration.
Or, le jour brillait d'un éclat divin. Et j'étais là rien que pour en jouir. Dansant dans la lumière, c'était comme si je courais vers Maureen, les mains pleines de fleurs. Marguerite chérie, elle vous boudrait, j'en suis sûr. Négliger un si tendre bien du soleil est un acte insensé. Le beau soleil d'une composition, la rosace des composacées. Je me disais, t'es pas capitaine, mon vieux, c'est pour ça qu'elle te traite. Oh, que même, renchérissait une voix là, à côté, la voix en double. Car par-delà l'un et l'autre point de vue, je recherchais une virilité en accord avec la conjoncture. Être militaire, telle était à présent l'aspiration commune, la mienne en tout premier. C'est dire que j'étais jaloux de ceux qui combattaient. Et, comme si j'avais envoyé mon ami Ndoubaï, le capitaine, pour présenter à ma femme les rayons d'herbe et d'eau, les rayons au cœur d'or, ça n'aurait rien changé. J'aurais humilié mon émissaire. Une fleur au bout du canon, quelle défaite pour un soldat. Ça n'est pas le jour, jour des fleurs, même si dans un français irlandais, ça peut se dire Bloomsday. Ça ne sert à rien de jouer les gentils. Ça n'est pas le jour, faut piger, dit. Et arrêter de broder sur les faits que la nature à plusieurs kilomètres à la ronde méconnaît. On ne trouve ni coin ni recoin fleuri dans le village, pas un bosquet de roses, de lilas. Notre monde en est dépourvu, pas même de pâquerettes. L'ébauche ne serait-ce qu'en rêve d'une marguerite de Transvaal, l'humble gerbera. L'Afrique du Sud est bien éloignée des rives du Logo. Impossible de rapprocher mon fleuve du Zambèze, de mêler leur eau, leur herbe, leur urbanité. Comme c'est le cas à Venise, à Acqua Alta, je la devine au loin. Il y a l'herbe, de la verdure. En cette saison, elle n'est pas dans la note, brûlée, sans charme, comme une aire tard venue au repos. Je m'en avise, il faut bien en sourire. Du large, évidemment, où je les inspecte et où elles poussent en grand nombre, juste réponse de la terre aux premières pluies de la fin avril. Là, sur les dunes, une forêt de joncs bride leur avancée. Elles brodent, elles bordent la plage des teintes pastelles. Là, ma barque s'est échouée. Sur le sable fin, j'ai dansé, étrange joie qui daignait s'emparer de moi sur les rivages que la guerre, du moins, a erré, avait meurtri. Dans les eaux, je m'étais amusé comme si c'était mon élément. J'avais fait concurrence à ces résidents naturels. Et puis, je suis revenu au village. C'est alors que m'est apparue la pauvreté du sol. En dépit de mon trouble, ce n'était pas un constat nouveau. Ce qu'il était, en revanche, c'était ma répugnance. Ils partagèrent mes vêtements. Ils tirèrent au sort ma tunique. C'était ça. J'avais été mis à nu, je ne sais comment, dépouillé de la doublure intérieure qui nous rend amoureux des êtres, des choses. Nudité du paysage couleur terre de sienne. Les douces falaises du bord que j'avais traversées distraitement tout à l'heure dévoilaient à présent les nombreuses galeries d'où parfois tombait un os, une planche, en somme, les ruines de l'antique village. C'étaient des événements familiers auxquels personne ne prêtait plus attention. L'os, science pure de la mémoire, les flots l'emportaient au loin. Celui-ci irait enrichir dans les eaux, dans les profondeurs, quelques sédiments. Aussi, depuis que le village a été rebâti à l'intérieur des terres, les morts sont enterrés dans la cour. Ils inaugurent de la sorte une nouvelle cohabitation avec les vivants. Et dans la maison de grand-père, où sont descendus les miens, notre aïeul ainsi que sa femme dort dans un coin du jardin. Le soir, un capoquier jette sur eux une ombre géante. Celle-ci vient redoubler l'ampleur des murs. Grand-père avait construit son domaine comme une forteresse. En son sein, elle accueille. Elle est asile. De la sorte, rencontre-t-on la verdure. Ici, dans tout le village, grâce aux arbres et, dans certaines maisons, la présence d'un potager, rarement un verger digne de ce nom, et jamais trace de fleurs nulle part. Je ressentais cette absence comme un affront. Je l'éprouvais déraisonnablement. Plus que jamais, je voulais être aussi doux qu'il est permis de l'être. Je n'avais rien trouvé de mieux pour me faire pardonner de Maureen. 2 jours déjà que je les avais retrouvés, et toujours cette obsession de Marguerite. En moi, le dessein grandissant de devenir le cœur de mes sensations, leur point de mire, leur amadou. Le grand dessein d'anoblir Maureen avec ma forfaiture.
Il y a dans cette écriture et cette forme méditative, mais pas enfermée dans la méditation, qui est propre à vos romans, quelque chose qui s'interroge aussi, en effet, sur cette condition, cette identité africaine, quand elle dépasse l'identité même tchadienne, à travers le monde. Et il y a un passage que nos journalistes français n'ont su pas trop voir quand vous parlez de ce moment d'espoir fabuleux que constitue l'élection de Mitterrand au Tchad, et c'est à ce moment-là qu'on se dit peut-être que nous manque peut-être le grand roman des années 80 chez nous, qui permettrait de visiter ces années françaises et de peut-être les mettre dans une perspective historique et littéraire, qui fait que parfois l'histoire du roman est aussi une rencontre avec l'histoire.
C'est ce que je veux faire dans le troisième volet.
Très bien, Nimrod, merci. Et en fait, à travers, j'avais pu voir, moi, il y a depuis quelques années, des textes parus de manière différentes, plurielles, dans différentes revues, qui étaient des témoignages, des essais, mais une manière aussi de témoigner de ce que vous nous avez parlé, c'est-à-dire qu'on se retrouve écrivain tchadien vivant en France, avec une tradition littéraire qui n'existe pas dans ce pays, et avec aussi, à un moment donné, cette manière que l'on a chez nous de faire que maintenant, vous allez nous répondre de ce qu'est qu'un écrivain africain et, disons, un écrivain noir. En fait, j'ai vu que quelque chose de l'ordre d'une réflexion se dessinait là-dessus, qui se concrétise par la parution de l'essai « La nouvelle chose française » et que complète en fait le livre Rosa Parks « Non à la discrimination raciale ». Je pense qu'il faut partir parfois de l'anecdote pour mesurer parfois la bêtise humaine, mais c'est lors d'une rencontre comme celle-ci qu'une personne dans la salle vous interpelle et vous dit « Vous n'êtes pas un vrai Africain ». Moi, j'ai vécu en Afrique, je sais ce que c'est qu'un vrai Africain. En plus, vous dites des mots, vous parlez de situations presque, mais vous parlez même de fleurs ou de légumes, ça n'existe pas là-bas. Et ensuite, pour glisser sur les missionnaires, et c'est-à-dire que vous venant en France avec cet amour de la littérature, vous êtes confronté à répondre à ces gens-là, mais pas seulement à ces gens-là, de ce qu'est aujourd'hui une littérature africaine, de ce qu'est aujourd'hui une littérature francophone dans laquelle on vous enferme autrement, c'est-à-dire qu'on vous invitera comme écrivain francophone et pas comme écrivain français. Et donc, il était devenu nécessaire pour vous de pouvoir, d'une certaine manière, sans être spécialement dans le pamphlet mais en ne manquant pas d'acidité, d'écrire là-dessus.
Tout ce que je venais de dire, c'est, si je voulais le résumer, c'est que la Bible, le Coran ou tout le reste, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'Afrique moderne n'est pas une invention des Africains, c'est une invention des Occidentaux. Sans les Français, on ne se serait pas appelé Tchadiens. C'est les Tchadiens qui découpent un territoire, ce sont les Français qui découpent un territoire et qui disent « ce sont des Tchadiens ». Et dans ce territoire, il y a une multitude de peuples. Et ça, c'est même très dur pour les Africains de leur faire entendre ça. Que ce n'est pas eux qui se sont appelés Tchadiens, Togolais. C'est une invention, ou française, ou anglaise, ou espagnole, ou portugaise. Hein. L'Afrique moderne est une invention européenne, tout simplement. Et on connaît la date de naissance, c'est 1885, à Berlin, où ces puissances se rencontrent et se partagent l'Afrique. Hein, qui connaît son histoire, connaît ça, c'est dans les manuels scolaires, on le connaît. Et ce qui est étrange, et d'où toutes les ambiguïtés que nous vivons, c'est que si l'Occident fait de l'Afrique une sorte d'Occident hors sol, quand nous voulons nous assumer comme des Occidentaux, et d'ailleurs je cite un texte de Maurice Blanchot dans La Nouvelle Chose Française, et Maurice Blanchot là écrit sur Nelson Mandela, il dit « Mais pourquoi les racistes sud-africains ont mis Nelson Mandela en prison ?» Dit tout simplement parce que Nelson Mandela a fait des études, il est devenu avocat et il s'assume comme un intellectuel. En tant qu'intellectuel, il dit, dès qu'un Africain s'assume comme intellectuel, c'est-à-dire donc un occidental, il est dangereux pour les Occidentaux. Et toutes ces relations que vous avez, pour la simple guerre tchadienne, sans offenser personne, c'est parce que les Tchadiens ont été assez fous pour dire « on veut juger les Français ». Mais ce n'est pas à faire. Ça ne se fait pas. Et vous avez vu que quand notre président a aidé notre président là-bas, il lui a dit « tu vas gracier les membres de l'Arche de Zoé, tout simplement. Voilà ce qu'il faut faire. » Ça ne se fait pas. Donc, tout ce discours « pays de droit de l'homme », machin, c'est de la ronflette, tout simplement. Ça ne tient pas la route. Donc, mais je recadre. Cela ne veut pas dire que c'est proprement français. Non, si. Justement, il faut l'aborder comme un intellectuel. Quand vous prenez toute l'histoire de la domination, de l'Antiquité à aujourd'hui, ça a toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas proprement français. D'ailleurs, dans un de mes essais que je consacre à Senghor, en 56, le chapitre 3 ou 4, je crois, de la Constitution de la 5e République, a été rédigé par Senghor. Ça, peu de Français le savent. Hein. Donc, Senghor, de Gaulle veut remercier Senghor, il le convoque, il lui donne une audience, 56, donc vous voyez, on est à 4 ans des indépendances africaines. Hein. Donc, il y a une ébullition en Afrique. Et le pauvre petit Senghor, ce que vous ne savez pas, c'est que le lycée Descartes était son premier poste d'enseignement. En 1935. Hein? C'était là, au lycée Descartes à Tours. Et il vient, il dit, mon général, les exactions coloniales. Alors De Gaulle lui dit, allons, Senghor. 450 ans de colonisation romaine, saurons-nous nous laver? Senghor est épaté, il sort et il dit à son copain. Son copain lui dit, c'était comment l'audience? Il dit, il m'a cuit. Il dit, il m'a cuit. Mais c'est-à-dire que la domination, c'est dans ce processus-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces débats très mal engagés qui viennent, on veut qu'elle est colonisée, reconnaissent les bienfaits de la colonisation. Comme si, quand je lis le livre français, c'est un Français qui vient le faire à ma place. Mais c'est moi qui le fais. Si j'ai des comptes, c'est à moi que je dois rendre. Si je dois remercier, il m'appartient à moi de remercier. Et non pas que quelqu'un vienne me dire, mais tu dois remercier pour ça. Surtout que la personne qui vous l'apprenait, c'était juste pour que vous soyez un sous-fifre, pour juste traduire les ordres. Ce n'était pas pour écrire des livres. Donc, mais quand on est avec les hommes, quelle que soit la technique, on n'est pas sûr. Nous le vivons tous les jours. À l'Élysée, ils pensent qu'ils vont manipuler et ça se retourne toujours contre eux. Mais c'est comme ça, avec l'homme, c'est comme ça. Ne sois jamais sûr avec tes calculs quand tu es avec un autre homme. Surtout, ne le prends pas pour un imbécile. Parce que il se retourne. Donc, c'est une situation tout simplement comme ça. Et c'est vrai que sans les Romains, on ne saurait pas bâtir ces palais, là, qui sont autour de nous. Nous savons que toutes les grandes routes françaises sont d'abord des routes romaines. Le vin, nous ne saurons pas ce que c'est. Et donc, il y a toujours un moment dans l'histoire d'un peuple où un autre peuple domine pendant plusieurs siècles, ce qui lui permet de faire son histoire et après, souvenez-vous simplement, pour revenir sur l'histoire littéraire, même au XVIIe siècle, un auteur français ne pouvait pas prendre un sujet du cru pour le traiter. Il fallait prendre un sujet mythique grec, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Donc, ce processus-là, voilà le processus dans lequel on est. Et l'Afrique, elle sera indépendante, mais pour ne pas décourager mes compatriotes africains, je leur dis, pas avant 1000 ans, vous comprenez? Si vous connaissez bien l'histoire, c'est pas avant 1000 ans. C'est bête, mais c'est tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que 1000 ans dans l'histoire d'un peuple? C'est rien. Dans l'histoire d'un homme, oui, c'est quelque chose. Parce que même l'idée de l'État-nation, les Français croient que ça a toujours existé, mais c'est daté, demandez à un historien, depuis quand on parle de l'État-nation? Il remontera pas plus de 2 siècles. Donc, voilà le bon côté de faire la philo, vous comprenez? C'est de désamorcer ces genres de choses, des concepts flous que nous remuons comme ça. Mais non, on ne peut pas, aucune nation ne s'est faite moins de 1000 ans. Ça n'a jamais existé. Or, les indépendances africaines, c'est leur 48e anniversaire en 48 ans. Bon, j'ai 48 ans. Je suis dans ma 49e année. Je te dis que je suis un enfant des indépendances. Oui, pour la vie d'un homme, je suis arrivé à écrire 4-5 livres. Mais c'est rien, c'est quoi 45 ans dans la vie d'un peuple? Strictement rien. Donc, voilà, c'est ce problème très très dur. Nous aurons ce genre de problème, mais sachons les prendre vraiment avec assez de recul, quoi, parce que ça demande une plus grande échelle. Ce n'est pas l'échelle vraiment de notre quotidien. Voilà.
Mais dans cet ouvrage, La Nouvelle Chose Française, il y a à répondre aussi de cette manière dont les écrivains noirs vivant en France ou africains deviennent des écrivains francophones, doivent répondre à un certain exotisme. Alors on a une collection qui s'appelle Continent Africain chez Gallimard.
Continent
Noir.
Continent Noir, au pluriel.
Et j'ai reçu les argumentaires cette semaine. Il n'y avait pas un livre qui n'était pas présenté comme quelque chose de follement exotique ou d'extrêmement drôle, rédigé dans une langue savoureuse.
Mais c'est d'ailleurs ce qui montre que dans l'histoire de la pensée, il y a des progrès et après des moments de régression. Parce que prenez les Senghor, toute cette génération-là, ceux des années 30, Senghor fait son premier livre de poèmes en 1945. Mais ils sont publiés dans des collections de tout le monde, c'est tout. Il n'y avait pas. Au moment où nous parlons de république une et indivisible, où il n'y a pas de communauté, c'est en ce moment qu'on crée des collections pour Africains. C'est étonnant d'ailleurs. Hein? On ne voit pas ce décalage entre ce qu'on professe et ce qu'on fait. Hein? Ce qui est malheureux, comme je le disais, il n'y a pas eu de différence au début. Après, c'est venu. Mais comme je venais de le dire aussi, au Tchad, il n'y a pas de structure éditoriale. Si je voulais être écrivain au Tchad, Mieux valait peut-être, si je ne voulais pas cultiver la terre, peut-être m'en tenir à l'enseignement. Parce que je ne trouverais pas ce petit monde-là qui est venu m'écouter, tout simplement. Ce qui fait qu'on fait des choses hors sol ou on fait des choses en exil. Alors si vous êtes en exil, vous êtes dans un commerce étranger. Et l'étranger, c'est le pouvoir qu'il peut en tirer. Réponds, mais réponds de moi. Mais ça, vous n'avez qu'à prendre entre Sarkozy et Angela Merkel, vous verrez qu'il y a le même problème. Vous comprenez? Dès qu'il y a deux personnes comme ça, et surtout notre situation, elle est tragique parce qu'on fait une littérature qui n'a pas de pays, parce que les pays africains, ils ne resteront pas comme ça, ils vont tous éclater, c'est évident. Cette chose coupée au cordon par la colonisation, d'autant plus que vous avez l'exemple là sous vos yeux, c'est l'exemple des Balkans et de Kosovo qui vient de se faire là. C'est ça cet exemple. Par exemple, nous au Tchad, on a tout un groupe de peuples qui viennent du désert, ils ne veulent que faire la guerre. Nous, on ne veut pas faire la guerre, mais on ne peut pas non plus, puisque c'est la même administration qui nous gère. Donc, non pas que l'avenir soit dans les micro-États, non, au contraire. Mais simplement, dans un premier État, ça passera peut-être dans les micro-États, et dans un second temps, des fédérations de peuples. Donc, voilà la situation. Donc, on nous demande, répondez, dites, faites. Mais oui, parce qu'on fait des choses à l'étranger, on le fait dans une langue comme au Tchad, il y a à peine 8% de personnes capables de parler français. Pour lire encore, je ne sais pas s'il y a 1% pour lire. Donc, vous voyez tout ça, ce sont des situations qu'on ne peut vraiment pas éviter. Mais par contre, je trouve que c'est l'honneur des artistes et des écrivains que de prendre ce problème à bras le corps et de le penser. Et c'est ce que je fais dans la Nouvelle Chose Française. La Nouvelle Chose Française, c'est dire que les Français regardent la littérature que nous écrivons comme une chose simplement exotique. J'ai dit, c'est mieux que ça. C'est un appendice de la littérature française. Faite en langue française, mais simplement dans une situation, comme l'a dit l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, comment écrire en pays dominé? Voilà notre situation. On écrit en situation de domination, tout simplement. Voilà la seule chose. Si un jour on devenait des peuples autonomes, mais ce serait exactement comme De Gaulle répondant à Senghor. Il y a eu un moment... Les latins, on s'en fout pas mal, on est français, on invente d'abord une langue française parce que cette langue n'a pas toujours existé. Hein? C'est aussi l'une des grandes illusions. Il fallait inventer une langue française pour que ça existe. Et c'est sûr que demain, si on a des États autonomes africains, je ne suis pas sûr qu'on écrirait dans aucune des langues européennes. Mais toute la littérature avant, toute la philosophie jusqu'au XVIIe siècle, elle s'écrivait en latin. Descartes écrit en latin. Nous oublions que quand nous lisons Descartes, c'est traduit de latin. À part le petit discours de la méthode, là, qui a été écrit en français, c'était en latin. Donc on les retraduira, tout simplement. Des problèmes d'une banalité, mais on en fait. Alors on dit, mais me répondez, vous comprenez, vous écrivez en langue étrangère. Mais oui, mais... Les 4/5 de la littérature française ont été écrites en langue étrangère. Elle a été traduite, tout simplement.
C'était une rencontre avec Nimrod, proposée par Marc Blanchet. Enregistré lors d'une veillée de 3 jours, 3 nuits, organisé par le Centre chorégraphique de Tours. Vous avez pu entendre une lecture par Nimrod du roman Le Bal des Princes aux éditions Actes Sud. Musique, String and String, générique, Fred Fritz. Voilà, c'est fini. Mais rassurez-vous, www.audioblog.arteradio.com /a-bout-2-souffle.